La guerre en Ukraine et la guerre du gaz. La Russie a arrêté aujourd'hui ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie, deux pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN, très dépendants du gaz russe. En Bulgarie, le gaz russe représente 90% de la consommation. Alors, quelles vont être les conséquences de ce tour de vis russe? On en parle avec notre invité Patrice Geoffron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à Paris Dauphine et directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Première question, toute simple, pourquoi seulement la Pologne et la Bulgarie sont frappées par ces mesures russes?
Il y a une interprétation assez simple qui est la suivante. Bon, la Russie n'a pas, il n'est pas dans l'intérêt de la Russie de couper brutalement et de rompre la relation de confiance avec l'ensemble de l'Europe et notamment avec l'Allemagne et l'Italie, qui sont deux gros débouchés. Et là, il y a une espèce de gradation qui est une manière finalement de faire pression dans le cadre du conflit, sans finalement se fermer à l'avenir les marchés les plus importants. Et donc il y a eu deux étapes. Une première étape il y a quelques semaines qui a été l'injonction faite par la Russie de payer désormais les approvisionnements en roubles. Et puis il y a là une deuxième étape qui est une deuxième semonce en quelque sorte en visant Varsovie d'un côté, la Bulgarie par ailleurs. Et puis il y a une raison spécifique concernant la Pologne qui a été très très active finalement dans le cadre du conflit, à la fois pour venir au secours directement des réfugiés ukrainiens et puis par ailleurs pour fournir des armes. Donc c'est une espèce de plaque tournante. Donc voilà, il y a une série d'éléments qui me semblent cohérents.
Je voudrais qu'on revienne sur la décision de la Russie de se faire payer en rouble désormais. Pourquoi le rouble plutôt que le dollar? Quel est l'intérêt de Moscou?
Alors j'y vois deux intérêts. Le premier, c'est qu'il y a une volonté de soutenir le rouble qui a été assez efficace de différentes manières. Et donc, de ce point de vue, le tour de passe-passe, grosso modo, autour du gaz entre dans cette perspective. Et puis, le deuxième élément est de rappeler la dépendance et de tirer, entre guillemets, sur la laisse, si je puis dire, et donc de faire pression sur les Européens et de faire toucher du doigt ce que pourraient être les conséquences économiques. En cas d'interruption du gaz, qui pourrait procéder à la fois d'une volonté d'embargo, mais ce n'est pas vraiment ce qui se décide du côté européen, mais également, pourquoi pas à l'avenir, d'une rupture de l'approvisionnement du côté russe.
Alors les Européens, justement, la Commission européenne ce matin a semblé un petit peu relativiser cette décision de Gazprom en expliquant qu'on travaille déjà à la diversification des approvisionnements en gaz. Où donc l'Europe peut-elle acheter son gaz désormais? Puis est-ce qu'il y en a suffisamment disponible?
Oui, alors il faut savoir que déjà Varsovie a pris les devants et a géré ses problèmes par elle-même, hein, puisque la dépendance finalement elle a été amoindrie d'une part, et puis par ailleurs Varsovie a la capacité à importer du gaz naturel liquéfié, donc ça peut venir du Qatar, ça peut venir également des États-Unis, et un nouveau gazoduc va relier directement la Pologne avec la Norvège, qui est un autre fournisseur potentiel assez significatif. Donc le problème est relativement peu aigu du côté de la Pologne. Mais enfin, si on regarde les choses globalement, la vraie difficulté, c'est que environ 150 milliards de mètres cubes nous arrivent pour une année normale de Russie. Et lorsqu'on regarde toutes les sources d'approvisionnement, la Norvège, je l'ai déjà cité, l'Algérie, l'Azerbaïdjan, et puis sous forme de GNL, le Qatar, l'Australie, les États-Unis, en mettant bout à bout les productions additionnelles, on arrive au maximum à environ un tiers de ces 150 milliards. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts par ailleurs, notamment pour produire de l'électricité différemment. Dans le meilleur des cas, ce sera avec plus de renouvelables, ça peut être également avec plus de charbon. Et puis surtout, on ne coupera pas des efforts de sobriété parce que dans un scénario de crise, eh bien, il est à peu près acquis qu'il n'y aura pas suffisamment de gaz pour couvrir l'intégralité de nos besoins.
Donc ça veut dire que les prix vont encore augmenter?
Alors encore augmenter, je ne sais pas, mais ils sont déjà
Ils sont très hauts.
dans les meilleurs jours, ils sont à peu près 5 fois plus élevés d'ores et déjà que ça n'était le cas au début de l'année 2021, avant que les prix se mettent inexorablement, semble-t-il, à monter. Donc il est possible que par pic, ça monte encore au-delà, mais en tout cas, on a d'ores et déjà la garantie d'avoir face à nous des prix du gaz, des prix de l'électricité également et des prix du pétrole plus élevés que ce qu'on pouvait escompter au sortir de la crise sanitaire.
Vous nous expliquiez il y a quelques instants que la Russie avait choisi d'adopter une méthode une riposte graduée en sanctionnant seulement deux pays de l'Union européenne. La Russie, elle a quand même besoin de clients, elle a besoin d'argent pour financer sa guerre notamment.
Oui, il y a un fil qui est très tendu avec une double dépendance, et cette dépendance, il est important de la regarder également du côté russe. Qui peut dire jusqu'où ces tensions peuvent monter, puisque finalement sur le front guerrier, des mots sont prononcés qui sont très effrayants. Il est question de menaces nucléaires, il est question de Troisième Guerre mondiale, et y compris hier dans la bouche de Monsieur Lavrov. Donc dans ce contexte, on peut tout à fait imaginer que voilà, les approvisionnements énergétiques entrent également dans les termes du débat et soit un moyen de pression, voire un moyen de sanction.
Le Kremlin, il y a quelques minutes, vient de justifier le fait d'avoir coupé les livraisons de gaz en disant bah, finalement c'est une réponse aux sanctions occidentales. Ces sanctions, elles ont été adoptées il y a très longtemps. Pourquoi la réponse est finalement si tardive de la part de Moscou?
Il y a une forme de progressivité. D'une part, il est essentiel que, concernant le gaz, mais également concernant le pétrole, la Russie puisse garder ouvert le marché européen, ce qui est déjà, d'ores et déjà très très compliqué pour le pétrole. Le pétrole russe a du mal à trouver, ou plus de mal qu'auparavant, à trouver des débouchés en Europe. Et ce pétrole, il a tendance à se vendre plutôt en dehors d'Europe désormais, et avec un prix dans lequel les Russes sont dans l'obligation de faire un rabais. Donc du côté russe, évidemment, de toucher au gaz et à la confiance en termes de livraison relativement au gaz est un outil qui peut être potentiellement assez violent, mais qui est un outil qui va affecter également les intérêts de long terme de la Russie, parce que la menace, c'est que la Russie se coupe définitivement ou très durablement de ce qui est son meilleur client et son débouché naturel.
Merci beaucoup, Patrice Geoffron, d'avoir répondu aux questions de RFI Midi, prof d'économie à Paris-Dauphine, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières.